Décryptage. Anne Corpet.
Pendant plusieurs années, un jeune journaliste français a été en contact régulier avec un agent des renseignements russes à Paris. L'occasion de côtoyer le monde obscur de l'espionnage russe, bien implanté dans la capitale française et depuis longtemps. La France, considérée par Moscou comme le maillon faible du bloc occidental pendant la guerre froide, est restée au centre du dispositif de renseignement russe. Les agents du Kremlin ratissent large, des étudiants promis à un bel avenir, aux élites de la sphère politique, il s'intéresse particulièrement à l'extrême droite, sensible au discours sur les valeurs traditionnelles et sur la grandeur passée des empires. Aujourd'hui, dans Décryptage, nous recevons Romain Mielkarek, auteur de cette enquête sur le renseignement russe en France. Romain Mielkarek, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste indépendant, spécialiste des questions de défense et de relations internationales, membre du collectif Long Shot. Votre livre, Les Moujiks, la France dans les griffes des espions russes, est paru aux éditions de Noël. Alors, votre histoire commence un soir d'octobre 2013. À l'époque, vous êtes jeune journaliste et vous venez d'animer une table ronde sur les armes chimiques. Ce Sergueï Solomazov se présente à vous, il lance son hameçon. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous.
Alors, il prend contact avec moi comme ils le font de manière très régulière avec toutes sortes de cibles qui peuvent les intéresser. Là, en l'occurrence, un journaliste qui travaille sur des questions stratégiques, des questions militaires, qui couvre des conflits armés, qui probablement peut avoir des carnets d'adresses assez intéressants et des accès qui, lui, pourraient lui permettre de récolter ce qu'il cherche, de l'information, du renseignement. Comment il prend contact ? Très simplement, en donnant sa carte de visite, en disant « Voilà, je suis Sergueï Solomazov, je suis officier, diplomate à l'ambassade de Russie, je viens d'arriver en France et je cherche à mieux comprendre la France, sa capitale, et je cherche à rencontrer du monde. »
Et à ce moment-là, vous ne vous méfiez pas particulièrement? Qu'est-ce qui se passe après?
On n'est jamais totalement dupe quand on travaille sur ces sujets-là. On sait que les gens qui sont dans les bureaux militaires des ambassades, c'est jamais totalement anodin. Mais je me dis à ce moment-là que ça peut être une source pour moi intéressante, qu'il pourrait peut-être me permettre d'avoir des accès à l'armée russe pour faire des reportages, par exemple. Je sous-estime quand même le poids qu'occupe le renseignement et l'espionnage dans son activité. Je pense que ça peut être l'un des rôles qu'il joue, mais pas 100% de son travail. Et ça, je vais le découvrir par la suite.
Alors, de quelle manière?
Le premier gros indice de son activité, c'est tout simplement les services de renseignement français, les services de contre-ingérence, la DGSI, qui viennent me voir et qui me disent « Voilà, nous, on s'intéresse à quelqu'un que vous fréquentez et on aimerait bien savoir ce qu'il vous dit, ce qu'il fait, comment il travaille. » Et surtout, ils m'ont décrit ces méthodes. Ce qui m'a permis, par exemple, de réaliser que lorsque l'on buvait des bières dans des bars jusqu'à pas d'heure, qu'il me posait des questions curieuses, visiblement sympathiques, sur est-ce que j'étais célibataire ou non, comment je gagnais ma vie, où est-ce que j'habitais, où vivait ma famille, si j'avais des origines étrangères, etc. etc. Qu'en fait, ce n'était pas juste de la curiosité pour mieux comprendre un Français parmi d'autres, mais qu'il était très clairement en train de travailler et qu'il cherchait à faire mon environnement, c'est comme ça que l'on dit dans le renseignement, pour trouver les failles chez moi qui pourraient l'aider à me manipuler.
Oui, c'est un processus assez long finalement, c'est étape par étape. Et il commence par vous faire des cadeaux. Alors, il y a ce système que vous décrivez, le MICE. C'est un acronyme.
Alors, voilà, MICE, c'est un acronyme qui est utilisé par les Britanniques à la base et qu'on utilise assez généralement parce qu'il est pratique et simple à mémoriser. L'idée, en gros, c'est qu'il y aurait quatre principaux leviers pour manipuler une source, pour la recruter. L'argent, on va essayer d'acheter la personne. L'idéologie, on va chercher chez la personne une convergence des idées, des valeurs pour lui dire « nous sommes dans le même camp, coopérons ». La compromission. On va utiliser un secret qui met mal à l'aise la source pour l'obliger à coopérer. Et puis, celui auquel moi j'explique que je suis le plus exposé, l'ego, où là on va dire à la personne « ton travail est intéressant, j'ai besoin de te voir, de savoir comment toi tu analyses les choses, parce que pour moi c'est précieux ». Et en fait, les officiers de renseignement vont jouer sur ces différents leviers, vont chercher chez chaque individu ce qui fonctionne pour essayer de l'inciter à coopérer avec l'officier de renseignement.
Alors avec Sergueï, on n'est pas chez James Bond ni chez la fine fleur du FSB. Hein. Vous écrivez, les hommes de la GRU, donc c'est le renseignement militaire, sont les moudjiks, des hommes prêts à tout pour remplir leur gamelle et peut-être un peu de pouvoir et obtenir un peu de pouvoir. Quel est son profil à Sergueï? C'est un homme qui apparaît un peu rustre.
Alors c'est ça, c'est quelqu'un qui vient plutôt de la campagne, qui a grandi dans un milieu pas évident. Évident, une famille militaire marquée par l'alcoolisme, par une certaine violence. Quand il est jeune, il est dans des bandes, etc. etc. C'est pas quelqu'un de très subtil, probablement pas très à l'aise dans les musées d'art contemporain parisiens et beaucoup plus dans son élément, à picoler jusqu'à pas d'heure avec un jeune journaliste enthousiaste. Ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que le personnage que je décris, c'est surtout le personnage que moi, j'ai rencontré. Et en fait, les officiers de renseignement, quand ils travaillent, ils s'adaptent aussi aux différents interlocuteurs qu'ils ont. Et cette expérience-là, j'ai rencontré tout un tas d'autres Français qui ont été confrontés à ce monsieur. Ils n'ont pas la même expérience parce qu'eux n'ont pas été invités dans des bars, mais plutôt, par exemple, dans des restaurants le midi assez chic ou dans des rooftops le soir un peu élégants. Et en fait, ils adaptent leurs approches, les environnements dans lesquels ils vont travailler à ce qui va mettre leur interlocuteur à l'aise. Moi, j'ai un petit côté ivrogne et pilier de comptoir. Donc, clairement, c'est le bon moyen d'essayer de me travailler.
Et vous expliquez qu'il ratisse très large. Vous écrivez à Paris, être approché par les Russes n'est pas si exotique que ça. Il pratique la pêche au chalut. C'est-à-dire que n'importe qui, finalement, peut être approché comme ça par les renseignements russes ?
Oui, ils visent large. Ils approchent tout ce que la place parisienne peut compter de jeunes chercheurs, de journalistes, de politiques, d'industriels, etc. etc. Ça peut paraître un petit peu cocasse comme ça. On se dit, tiens, ils sont quand même un petit peu lourdingues et pas très efficaces. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ils travaillent sur le temps long. Donc potentiellement, ce premier échelon de récolte d'informations que sont les officiers de renseignement qui travaillent sous couverture diplomatique, donc ils se font passer pour des diplomates, il est assez lourd, c'est très mécanique, très répétitif, c'est un travail de fonctionnaire finalement, mais ces renseignements qu'ils récoltent sur les personnes pourront être utilisés peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, par leurs collègues qui en auraient besoin lorsque dans le futur, les personnes approchées auraient d'autres responsabilités ou des choses comme ça. Et puis après, il y a d'autres types de personnages plus discrets, notamment les espions qui travaillent sous couverture, les illégaux qui eux peuvent aussi remplir des missions beaucoup plus délicates. L'avantage, la force des personnages comme Sergueï, c'est que eux, comme ils ont une couverture diplomatique, ils peuvent se permettre d'aller assez loin dans leur démarche. Ils ont une véritable impunité puisque ils ne pourront pas facilement être arrêtés par les services de police français.
Et il cible aussi les milieux politiques. Vous racontez par exemple comment votre interlocuteur a tenté de rallier Jean-Luc Mélenchon avec une méthode, disons, plutôt cash.
Oui, il a tenté de proposer de l'argent à l'un des collaborateurs de Jean-Luc Mélenchon qu'il fréquentait très régulièrement, un petit peu de la même manière que moi. Et il lui a proposé lors d'une campagne électorale de soutenir Jean-Luc Mélenchon en fournissant 500 000 euros. Moi, Sergueï Solomassov, c'est quelque chose qu'il m'a répété à de multiples reprises, c'est qu'il trouvait le discours et le projet politique de Jean-Luc Mélenchon intéressant, ce qui en fait est parfaitement logique, puisqu'à partir de 2014 et l'invasion de la Crimée et d'une partie du Donbass, le discours de Jean-Luc Mélenchon n'est pas défavorable à la Russie, il est même plutôt en ligne avec ce qu'attend Moscou. Alors, aujourd'hui, la France insoumise se défend en disant « mais on n'a jamais fréquenté Poutine, on n'a jamais été d'accord avec lui, on a plutôt été en lien avec des opposants ». Le fait est qu'ils n'ont pas condamné à l'époque suffisamment fort la politique impérialiste de Vladimir Poutine et que ça, les Russes l'ont vu comme un atout qu'on pouvait mobiliser.
Mais les 500 000 euros ont été refusés.
Ils ont été refusés. Alors, ce qui est assez intéressant dans la manière dont Georgi Kuzmanovitch justifie ce refus, il ne dit pas « je trouve ça révoltant qu'on tente de me corrompre », il dit « on ne sait pas faire ». À l'époque, on n'est pas assez gros pour accepter un tel don et donc… je ne suis pas totalement bête, je ne veux pas me retrouver dans une situation judiciaire catastrophique, donc évidemment je refuse. Mais l'argument éthique n'est pas mis en avant et il est convaincu que tout un tas d'autres acteurs utilisent ce type de financement sans hésiter.
Les Russes ont aussi ciblé la droite et avec un certain succès. Je voudrais qu'on revienne en 2014 après l'annexion de la Crimée. François Hollande, président, annule la livraison des bateaux Mistral à la Russie. Le contrat avait été signé par son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Et c'est à ce moment-là que des élus, des anciens ministres de droite comme de gauche, s'insurgent de cette décision. Et eux soutiennent toujours la Russie, voire Vladimir Poutine. Écoutez ce que disait par exemple Jean-Pierre Chevènement en avril, soit un mois après l'annexion de la Crimée.
Les États-Unis sont quand même la puissance dominante. Alors la Russie, c'est aussi un pays voisin avec lequel nous avons une histoire, des affinités.
Cette histoire, ces affinités évoquées par Jean-Pierre Chevènement, c'est le socle sur lequel s'appuient les Russes pour attirer la droite dans ses filets.
Alors, en fait, ils jouent et ils ont toujours joué, déjà à l'époque soviétique du temps du KGB et déjà à l'époque du temps de la GRU qui existait à l'époque. Ils jouent sur un imaginaire partagé entre des acteurs politiques qui fantasment une certaine Russie. Donc, pendant l'Union soviétique, c'était beaucoup une partie des communistes qui étaient persuadés que le régime soviétique était l'avant-garde de la révolution prolétaire, ce qui était aberrant et on le sait d'autant plus aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun doute historique sur la violence, l'oppression et l'inégalité portées par le régime soviétique. Et on retrouve aujourd'hui le même type de fantasme à droite avec des gens qui s'imaginent que la Russie serait un espèce de défenseur d'une Europe blanche, chrétienne, avec des valeurs et des pratiques sociétales conservatrices dont eux, ils rêvent. Mais là encore, c'est un fantasme, puisque la Russie, ce n'est pas ça. Et la Russie, c'est un ensemble qui est extrêmement complexe. Et l'exemple que je prends dans le livre, c'est de dire qu'il y a tout un tas de communautés dans la Fédération de Russie. Et si vous allez expliquer à un Kalmouk à l'extrême ouest, en Europe, de la Russie, qui est descendant de populations mongoles, qui est bouddhiste, ou si vous allez expliquer à un Yakout à l'extrême-orient qui, lui, a des pratiques chamaniques et qui, également, physiquement, est typé très asiatique, si vous dites à ces gens-là « Est-ce que vous êtes les défenseurs de la race blanche européenne chrétienne ?» Ils risquent de ne pas comprendre de quoi on leur parle.
Et vous écrivez « Les jeunes communistes, dont beaucoup furent les idiots utiles de la Russie soviétique, ont été victimes d'un grand remplacement. Les jeunes identitaires ont pris leur place. » Et vous l'avez constaté lors de ce Festival mondial de la jeunesse organisé à Sotchi en octobre 2017. C'était plus les jeunes communistes qui venaient célébrer la Russie. Là.
C'est ça. Cet événement, c'est un héritage de la période soviétique. Ça a été pendant longtemps un moyen de porter une propagande soviétique communiste. Et en fait, les Russes mobilisaient les jeunes communistes du monde entier. L'événement est un peu tombé en désuétude depuis la fin de la guerre froide. Et il y a quelques années, la Russie a organisé une nouvelle édition. Alors, on avait perdu tous les codes historiques de cette rencontre. Là, c'était porté par des modèles très capitalistes. Toutes les grandes entreprises russes étaient présentes pour recruter, pour chercher des stagiaires. Elles n'avaient pas eu le choix. Et on trouvait également, plutôt que des jeunes communistes, des jeunes identitaires, des jeunes d'ultra-droite qui sont venus, eux, porter les valeurs auxquelles il croyait. Donc il y avait un espèce de mélange de plein de choses où chacun venait chercher ce qu'il imaginait être la Russie. Et au sommet de tout ça, on avait un Vladimir Poutine triomphant qui, lui, préparait sa réélection et qui se retrouvait un peu à agglomérer tout un tas de réalités parallèles, de vérités parallèles, sans vraiment se soucier de qu'est-ce qui est vrai ou non, mais juste pour dire « Vous tous, votre intérêt, c'est de me soutenir, c'est de croire en moi ».
Alors, l'invasion de l'Ukraine a divisé, j'imagine, ces militants de l'ultra-droite française. Il y en a d'ailleurs qui sont allés combattre aux côtés des Ukrainiens, d'autres dans le Donbass, aux côtés des séparatistes russes. Et à propos de l'engagement de ces derniers, vous citez l'explication d'un chercheur, c'est la méconnaissance historique, l'ignorance de ces jeunes qui les rend perméables aux récits russes, une ignorance qui parfois atteint aussi la classe politique française. En juillet 2015, par exemple, plus d'un an après l'annexion de la Crimée, Jacques Millard, en partance pour un voyage sur place, expliquait ceci au micro de Pierre Firsion.
En allant en Crimée, nous disons très clairement qu'il faut reconnaître les réalités. La réalité, c'est que c'est un peuplement russe, essentiellement russe, et pas ukrainien au sens où les Ukrainiens l'entendent.
Alors Jacques Millard oublie la déportation des Tatars, oublie le peuplement massif, effectivement, de la Crimée par les Russes au détriment des Ukrainiens. Le discours historique russe, il a conquis les élites en France, d'après vous ?
Vous l'avez dit vous-même, Jacques Millard est un ignorant. Ça décrit assez bien le personnage. comme beaucoup d'ailleurs des cadres politiques qui ont gravité dans toute cette sphère-là. Je pense que chez ces gens-là, il y a aussi de l'opportunisme et de l'intérêt. C'est un moyen de jouer un espèce de rôle international qu'ils ne méritent pas parce qu'ils n'ont ni les compétences, ni les connaissances qu'ils justifieraient. Et ça leur donne finalement une espèce d'autorité dans tout un tas de contextes qui pour eux est profitable en termes de visibilité politique. Ça a créé beaucoup de torts parce que déjà, d'une part, ça a un petit peu court-circuité la diplomatie française et ça a créé des contre-discours. Et ça, c'est exactement ce que cherchaient à faire les Russes.
Oui, ce voyage, faut le préciser, a été vivement condamné par le Quai d'Orsay à l'époque.
Exactement, et tout ça a été organisé par les Russes. Alors, vous parlez des politiques, on a parlé depuis tout à l'heure plutôt d'élites dirigeantes, de gens au pouvoir. Ce type de manœuvre, les Russes les ont mobilisés également avec des gens normaux, entre guillemets, en jouant sur les tissus associatifs, par exemple, les associations mémorielles. Moi, j'avais accompagné comme ça un déplacement de gens qui voulaient honorer des soldats qui avaient combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, les équipages du Normandie-Niemen, qui était une unité franco-soviétique qui s'est battue sur le front est de l'Allemagne nazie. Et ces gens-là, c'était un très beau symbole. Ce sont des héros de guerre honorés en Russie, un peu oubliés chez nous. Et la Russie a joué sur ce symbole et a réussi à faire venir ces Français qui voulaient juste qu'on se souvienne de leurs ancêtres et à les faire défiler sur la place rouge pour dire peut-être que la France officiellement ne nous parle plus, mais il y a encore des Français qui sont prêts à nous soutenir. Et ils instrumentalisent comme ça des gens en jouant sur les causes, sur les sujets qui les préoccupent, qui les intéressent, pour les mobiliser dans leur propre combat politique.
Alors en France, la désinformation russe passait par les chaînes de télévision Russia Today et Sputnik, qui sont maintenant interdites. Est-ce qu'elle reste relayée dans certains médias traditionnels ?
Aujourd'hui, c'est devenu quand même assez difficile. La plupart des porte-voix, des relais d'influence de la Russie de Vladimir Poutine ont été quand même majoritairement ostracisés. On les entend assez peu. Ce qui est assez intéressant, c'est plutôt de relever qu'une partie des gens qui se précipitaient chez Russia Today et Sputnik pour tenir des discours plutôt favorables à Moscou ont aujourd'hui totalement changé de braquet et de discours. Et on les retrouve sur des chaînes d'information en continu pour défendre l'Ukraine. Et peu importe finalement le discours qu'ils portent, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir de la visibilité, d'avoir de la présence et de vendre ce qu'ils ont à vendre. Alors, pour les uns, des livres, pour les autres, des prestations de conseil. Et tout ce microcosme est intéressant parce que difficile à percevoir pour le public, mais particulièrement intéressant à exploiter pour un service de renseignement, puisque ce sont des gens qui sont relativement dénués d'éthique.
Et la propagande continue, en revanche, activement sur les réseaux sociaux ?
Sur les réseaux sociaux, oui, beaucoup plus visible. Alors pareil, il y a quand même une grosse partie de l'opinion publique qui aujourd'hui est très consciente de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Mais les Russes continuent les mêmes stratégies en essayant de chercher les maillons fragiles finalement de l'opinion, des gens qui sont en colère pour tout un tas de raisons, qui sont inquiets, qui ont des doutes, qui ont perdu confiance en divers acteurs, que ce soit les médias d'un côté ou les politiques de l'autre. Et ils vont jouer sur ces différents leviers pour leur dire « Ah, vous voyez, vous n'avez pas confiance en votre gouvernement parce que vous avez le sentiment que sur la politique sanitaire, on vous a trompé ». Eh bien, ce n'est pas le seul sujet où on vous a trompé. Sur la Russie et sur l'Ukraine aussi. Et on va jouer en fait sur ce genre de choses pour créer des communautés d'intérêts entre tout un tas de gens qui n'ont pas grand-chose en commun, qui ne connaissent rien à la Russie et qui se retrouvent un petit peu par accident et par hasard à défendre un certain nombre de discours qui sont portés par la Russie.
Sans être pour autant, comme vous l'avez été, en contact direct avec les agents de renseignement. Alors, vous écrivez que les services de renseignement russes ont longtemps profité d'une forme d'impunité ou, disons, ont été négligés par le pouvoir politique français. C'est toujours le cas. Il y a eu des expulsions massives en avril dernier, très rapidement. C'est toujours le cas. Aujourd'hui, le pouvoir politique est conscient de cette menace ?
A priori, le pouvoir politique a pris conscience de la menace. Là, de toute façon, elle est tellement évidente qu'on ne peut pas faire autrement. La question que moi, je me pose, c'est est-ce qu'on ne risque pas, dans quelques années, après la fin de la guerre, de retomber dans les mêmes travers et de ne plus écouter les autres pays, les alliés, lorsqu'ils disent « attention, à tel endroit, il y a des menaces que la France ne perçoit pas a priori ». Et ça, c'est un peu difficile pour les Français d'écouter les autres.
Merci Romain Mialkarek. Je rappelle le titre de votre livre, « Les Moudjiks, la France dans les griffes des espions russes », c'est paru chez De Noël. Merci à Olivier Roux qui a assuré la réalisation et à Sigrid Azerwal, son aide est précieuse pour préparer